Et sous les obus, la plage. En même temps que le débarquement allié, les nouvelles technologies de l'information mènent depuis quelques années leur propre guerre. Revenons à la genèse de la notion d'information. Nous pouvons remonter d'abord aux années 20, dans trois domaines aussi distincts que la physique théorique, les statistiques ou les télécommunications. C'est le contexte de la Deuxième Guerre mondiale qui explique comment ces définitions convergent dans le développement de ce que l'on nomme juste après la guerre la théorie de l'information. Explication de Jérôme Segal, maître de conférence à l'Institut universitaire de formation des maîtres de Paris, auteur du livre Le 0 et le 1.
La revue du net.
La revue du numérique.
La revue du web.
La revue du net.
La revue du numérique.
La revue du web.
I'm dreaming!
Il y a en fait différentes branches dans l'histoire de l'informatique. Un point important et en rapport, je pense, avec la Seconde Guerre mondiale, c'est la nécessité d'avoir des calculs pour les tables de tir, pour savoir comment orienter les canons en fonction des données dont on dispose, des données balistiques.
Il faut se remettre dans le contexte, on tire plus loin et on va être plus précis.
Voilà, et en fait, entre les deux guerres mondiales, entre la première et la seconde, c'était que les avions volaient deux fois plus haut et surtout deux fois plus vite. Il fallait donc automatiser les liaisons entre les stations de radar d'une part et les stations de DCA, défense contre-avion, d'autre part.
Et chaque camp avait ses chercheurs et on cherchait à peu près dans la même direction, mais il y avait deux camps différents.
On ne peut pas vraiment dire ça. L'essentiel des travaux était mené aux États-Unis, qui avaient donc des gros moyens pour tout ce qui était défensif, alors que les stratégies du Reich étaient, comme on sait, beaucoup plus offensives. On connaît les Blitzkrieg, les guerres éclairs, ce qui fait que du côté allemand, on a beaucoup moins misé sur les techniques de radar, sur tout ce qui était défensif. Donc en fait, la notion d'information, elle est apparue comme notion scientifique essentiellement aux États-Unis, en partie aussi en Angleterre, dans le cadre de travaux défensifs. Il faut savoir qu'un projet commun, développé à la fois par quelqu'un comme Alan Turing, qu'on connaît bien de Bletchley Park, qui travaillait dans le domaine de la cryptanalyse, de décoder les messages allemands, a travaillé avec des Américains, des chercheurs américains des laboratoires des téléphones Bell, pour mettre au point un système couplant un radar et un canon. Et la majorité des V1, les missiles lancés par les Allemands, ont pu être interceptés de cette façon.
C'est Alan Turing, il a fait aussi d'autres choses, notamment on lui doit quand même, on peut parler d'ordinateur, ordinateur analogique, on lui doit d'avoir pensé cet ordinateur.
Alors,
et de même l'avoir un peu créé, parce que Colossus qui était utilisé par les Anglais, apparemment c'était issu de ses travaux.
Alors en fait il y a deux points importants dans l'apport de Turing. Un point, c'est en 1936, une publication dans laquelle il réfléchit sur un aspect un peu universel du calcul, comment le calcul pourrait être appliqué dans de très différents domaines. Et d'autre part, une contribution beaucoup plus pratique, qui est à Bletchley Park, la réalisation de différentes machines. Alors c'est un petit peu gênant de les appeler aujourd'hui ordinateurs, on les appelait évidemment à l'époque computer, ce sont donc des calculateurs, qui ont été utilisés pour essentiellement pour déchiffrer les messages allemands.
Et donc du côté allemand, c'était les machines Enigma.
La machine Enigma, faut savoir que c'était une machine qui avait une application commerciale qui était très connue dans les années 20. Ce sont des mathématiciens polonais qui dans les années 30 ont réussi à comprendre comment on pouvait décoder l'Enigma lorsqu'elle était appliquée avec un rotor en plus dans des applications militaires.
Si on revient un petit peu à notre débarquement, là on est quasiment sur la plage, on sort de nos barges. Quelle nouvelle technologie nous accompagne?
Alors il y a d'abord les appareils amphibies, on connaît le Duck, l'Alligator. Ce sont des appareils qui finalement, pour le débarquement, n'ont pas eu l'efficacité escomptée. Il faut savoir que le jour du débarquement, la mer était assez déchaînée. Et c'est pour ça que les Allemands pensaient vraiment pas que le débarquement aurait lieu ce jour-là. Un point important, c'est tout ce qui a été renseignement. Les services secrets qui ont fait courir des bruits selon lesquels les Alliés arriveraient plutôt dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc les Allemands étaient plutôt partis sur cette hypothèse-là. Et donc ça, c'est tout un système de communication qu'il y a eu entre les États-Unis et la Grande-Bretagne à l'aide de systèmes faisant appel à une notion vraiment scientifique de l'information, puisque l'information était quantifiée, numérisée et cryptée et permettait tout de même la téléphonie, c'est-à-dire une transmission de la voix avec une numérisation et un codage.
Une numérisation, mais alors sur quel support on mettait à l'époque? C'est quoi? C'est forcément, on avait la bande magnétique
Non, c'était une transmission filaire. d'une part et une transmission hertzienne d'autre part. Alors, la transmission hertzienne était utilisée pour avec un système qu'on appelait le Green Hornet, donc le cornet vert. C'était ce qui permettait un système de téléphonie directe entre Churchill et Roosevelt.
Toutes les théories de l'information qui ont découlé de la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que ce sont des théories propres à la guerre.
En fait, il faut savoir que c'est dès 1939, donc avant même l'entrée en guerre des États-Unis. L'entrée en guerre des États-Unis, c'est commencé par Pearl Harbor le 7 décembre 1941. La guerre en Europe a permis la création de groupes interdisciplinaires. Et c'est ça qui est vraiment fondamental. C'est que ce sont des mathématiciens, des ingénieurs, mais aussi des linguistes et des psychologues qui, ensemble, ont créé des nouveaux groupes de travail, ont été amenés, par exemple, à définir la cybernétique, cette espèce de théorie générale un peu multiforme qui s'applique à la fois aux êtres humains, aux machines et à l'analyse de la société. Tout un tas de théories comme ça qui ont pu naître grâce à la guerre parce que des gens se sont rencontrés qui autrement ne se seraient pas rencontrés.
Avec aussi l'idée d'inventer la machine qui puisse penser pour plus de transparence de l'information.
Tout à fait. Vannevar Bush est l'auteur en 1945 d'un article qui s'appelle As We May Think, donc comme nous penserons, comme nous pourrions penser, et dans lequel il envisage une machine qu'il appelle le MEMEX, M-E-M-E-X, qui serait une machine permettant de traiter tout type d'informations, à la fois des signaux sonores, des signaux écrits, récupérer des choses qu'on a gardées en mémoire. Faut savoir que la guerre a été un moyen de comprendre l'analogie qu'il y avait entre l'informatique, le traitement de l'information dans le temps, et puis les télécommunications, où on traite l'information dans l'espace, transmettre un message d'un point A à un point B.
Eh bien, en vous remerciant, Jérôme Segal, est-ce qu'on peut vous lire quelque part sur Internet?
Oui, bien sûr. Vous avez, par exemple, livre01.free.fr au sujet de mon livre. Et sinon, en entrant Jérôme Segal sur un moteur de recherche, vous me lirez facilement.
Merci.
Veuillez écouter maintenant les messages
Ici, le magazine du net. Je répète, ici, le magazine du net. Quelques messages personnels. Nicolas Spiga a réalisé, Assia Rallid doit jouer du piano à la console. André Navarro communique bien. Tom Bouillu se fait inviter et devient le spécialiste. Dominique Désonné sera parachuté la semaine prochaine à la même heure. Et vous pouvez écrire à mag.internet@rfi.fr.